Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Sea. Alors comme vous le savez, qui dit nouvel épisode dit nouvel invité, vous commencez par connaître la chanson. Et aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une femme que je suis depuis l'année dernière, sur les réseaux sociaux. Elle m'intéresse pour plusieurs raisons, pour le challenge qui paraît un peu fou qu'elle s'est lancé l'année dernière et plusieurs autres raisons qu'on va découvrir à travers l'échange qu'on aura. Donc il s'agit de Sandy Abena, alias Abenafrica sur les réseaux sociaux. Salut Sandy.
Salut à vous ça.
Comment vas-tu?
Ça va très bien et toi?
Ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir sur ces podcasts, ça me fait plaisir. Je t'avais déjà rencontré à vrai dire en décembre dernier lors de ton passage à Cotonou. Tu étais speaker dans le cadre du TEDx Women Cotonou 2021 et on s'était j'avais suivi l'intervention et à la fin j'ai eu l'occasion de prendre une photo avec toi, donc c'était plutôt cool. Là c'est ton deuxième passage au Bénin,
oui.
Donc ton pays numéro 7. Tout à l'heure je parlais du challenge un peu fou que tu t'étais lancé, c'était de faire 10 pays en 10 mois.
Mm-hmm.
Bon là le délai est dépassé. Ouh. Mais tu poursuis ton objectif.
Ah oui, le délai est dépassé
de visiter quand même 10 pays que tu t'es fixé.
Yes.
Alors, Sandy, moi, pour commencer, j'aimerais qu'on remonte un petit peu, qu'on fasse un retour en arrière.
Mm-hmm.
À ton enfance, j'aimerais savoir, je suis curieuse de savoir comment était la Sandy de 8 ans. Est-ce que déjà tu étais curieuse, dynamique, comme la jeune femme qui te caractérise aujourd'hui, ou bien tu étais plutôt réservée dans ton coin?
8 ans, on était en quelle classe? 8 ans, c'est... ça doit être CE1, donc c'était primaire. Ok.
Ouais, primaire,
à 8 ans. De ce que je me souviens, 8 ans, c'est surtout l'école. Moi, j'ai toujours été très, 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 très amoureuse de l'école. Ça me saoulait d'aller à la récréation. Je kiffais apprendre. Mes maîtresses, elles me kiffaient de ouf. J'étais très curieuse. Je voulais en apprendre plus sur ce qu'on me disait déjà.
Mm-hmm.
Ça me caractérise parce que c'est à ça que je pense, mais on était, mon frère, ma sœur et moi, on était, on était les seuls noirs dans une école de blancs. Et je pense que, qu'on le veuille ou pas, ça a forcément forgé un petit truc en moi et en chacun d'entre nous, dans notre fratrie. Et puis voilà, je faisais du violon, je faisais du théâtre. On a toujours fait des trucs, en plus de l'école. Mm-hmm. Mes parents, le mercredi après-midi, c'était pas pour, regarder la télé ou jouer à la play. D'ailleurs, on n'avait pas de play. c'était pour faire les différentes activités. Donc, je pense que j'ai toujours, été ça, comme ça, et j'ai toujours cultivé ce côté curieux, que ça soit sur mes origines, sur l'Afrique, etc., ou sur d'autres choses intéressantes.
Ok, d'accord. Donc, ça ne date pas d'hier, alors?
Non, non, non.
Ok. Et du coup, si on considère le fait, justement, que tu sois née, que tu aies grandi en France, à quel moment de ton développement personnel est-ce que tu as senti que tu devais te reconnecter à tes racines?
D'accord. À aucun moment, c'est arrivé, tout simplement parce que j'ai grandi comme ça. Je suis née à Paris, donc 14e. J'ai grandi dans le 95. D'abord, dans une ville où on n'était pas en minorité, et ensuite dans une ville où on était plus ou moins la seule famille de Noirs. Mais en fait, j'ai jamais eu ce besoin-là parce qu'on a grandi avec ça. Mes parents, et c'est le cas pour beaucoup de Noirs de France, d'Africains de France ou d'Antillais de France, pas tous, mais pour beaucoup, on a beau vivre loin de nos terres, d'Afrique ou de la Caraïbe, de par nos parents, de par nos familles, de par l'oncle ou la tante, il y a toujours ce truc qui est cultivé de... que ça soit conscient ou pas, on cultive le fait d'être qui on est. Que ce soit dans le simple fait de parler créole, ça se retrouve dans la langue, ça se retrouve dans nos assiettes, ce qu'on mange. Quand Marie-Claire me dit qu'elle a mangé des pâtes hier et que moi j'ai mangé mon bon d'ombré porc, il y a ces trucs qui sont cultivés même si on est loin de nous. Et après vraiment le rapport, de nos pays, pardon. Et après le rapport, anti-Afrique. Et là c'est vrai que c'est particulier pour une famille antillaise parce que c'est pas partout comme ça. Mm-hmm. Notre père nous a toujours élevés dans ce truc de vous êtes antillais, mais en fait nous on vient d'Afrique. Donc moi j'ai jamais vraiment séparé ce truc-là.
Okay.
Je suis pas dupe. Quand j'ai grandi, j'entendais les remarques que pouvaient avoir certaines de mes tantes ou certains des amis de mes parents par rapport à l'Afrique, ou ce complexe de supériorité développé de base par les Français et les blancs et les Européens de manière générale, qui a été transmis au final aux Antillais qui au final ne connaissaient rien de leur terre mère qui est l'Afrique.
Mm-hmm.
J'entendais ces trucs-là. Par contre, moi, j'ai jamais eu ce truc-là parce que mon père, au contraire, il était fier. Il était très fier de venir des terres de Kunta Kinte. Il était très fier de venir des terres de Nelson Mandela, de tout. Enfin, on a grandi, on regardait les documentaires à la télé tous les dimanches. Enfin, on a grandi là-dedans. Donc, j'ai jamais eu ce besoin de me reconnecter avec quoi que ce soit parce que pour moi, j'ai grandi avec, en fait.
Ok, très bien. Donc, il n'y avait pas vraiment une découverte identitaire à un moment donné. Finalement, ça a toujours été en toi, quoi.
Ça a toujours été en moi. Après, effectivement, il y a un déclic. C'est au moment où ce que mon père me disait à la maison et ce que moi, je voyais à l'école ou que j'entendais dans les médias, il y avait une divergence qui était trop importante. Ouais. Quand d'un côté, j'entends que l'Afrique, c'est super pauvre, que enfin l'histoire, esclavage, colonisation, mais avant, on était juste tout nus à attendre qu'ils arrivent. Mm-hmm. Tout ce que j'entendais à la télé ou à l'école, quand mon père me parlait de l'Afrique ou des Noirs, c'est pas ça que j'entendais. J'entendais qu'on avait des royaumes, j'entendais qu'on était grands, j'entendais qu'on était puissants, j'entendais qu'on était intelligents. Et la différence était trop importante. Et c'est là où je me suis dit, faut que je me fasse ma propre idée, même si en réalité je croyais mon papa hein, comme toutes les petites
filles. Bien sûr.
Et du coup j'ai voulu confronter ces deux pensées, j'irais aussi bien sur le terrain que dans l'histoire, etc. Et donc sur le terrain, c'est quand j'ai décidé à 18 ans d'aller toute seule en Afrique, c'était au Ghana. Et dans l'histoire, c'était le fait d'aller à des expos, le fait d'aller à des conférences, le fait de lire des livres qui sont différents de ce que me propose le programme scolaire
français.
Et c'est là où je me suis dit, c'est compliqué quand même quand on nous dit des bêtises. Et c'est là où je me suis dit, bon, on va créer un truc, parce que moi, j'apprends plein de choses, ça me nourrit, ça me fait grandir et ça me fait devenir tellement bien et tellement alignée dans ma négritude, dans ma féminité, dans tellement de choses que on va partager avec les autres parce que c'est bien si on est tous comme ça.
OK, j'en venais justement à ce fait-là. Tu parlais tout à l'heure de ta première fois sur le continent africain, donc c'était au Ghana à tes 18 ans. Mm-hmm. C'est comme un symbole, je sais pas si c'était fait exprès ou c'est parce que tu avais atteint la majorité, donc du coup tes parents t'avaient autorisé à voyager seule pour faire ce voyage initiatique, on va dire. Mm-hmm. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as ressenti à ce moment-là quand tu es premièrement arrivée?
Alors, pour répondre à ta question, c'était pas du tout... Enfin, le Ghana, j'aurais pu atterrir en Côte d'Ivoire ou au Togo, pour moi, c'était pareil.
Ok.
Aujourd'hui, la manière dont je vois l'Afrique, elle n'a rien à voir avec la manière dont je voyais l'Afrique il y a 12 ans, donc quand j'avais 18 ans, parce que je connaissais rien. Enfin, comme je t'ai dit, c'était des paroles de mon père, des paroles de la télé. Mais en vrai, le Ghana, si tu m'avais dit que c'est dans le sud de l'Afrique, je t'aurais dit ok.
Bénin,
si tu m'avais dit que c'était en centre de l'Afrique, je t'aurais dit ok. Je connaissais rien au continent africain. Je savais qu'on était là, mais je connaissais rien. Et en fait, je me suis juste dit, je vais en Afrique, mais je vais en profiter pour parler anglais. Donc je me suis dit, je vais apprendre un pays anglophone. Et puis j'ai pris une carte, j'ai pris ma règle. Et j'ai regardé le pays qui était le moins loin de France, parce que je me suis dit, du coup, mes parents vont payer un billet moins cher. Il n'y a aucune logique, hein, parce qu'il y a des pays qui sont super loin, qui coûtent moins cher, mais bon, bref. Et c'est tombé sur le Ghana. Vraiment.
Pur hasard, finalement.
Total hasard. Okay. Franchement, pour moi, je faisais aucune différence. À l'époque, maintenant. mais à l'époque, je faisais aucune différence. Et ce que j'ai ressenti en arrivant, je pense qu'il y a eu deux pensées. La première pensée qui n'a rien à voir avec le continent africain, c'est que je me suis dit, mais à quel moment tu t'es dit que toi, t'allais débarquer toute seule en Afrique, tu connais personne, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ça, c'est vraiment le premier truc que je me dis, mais vraiment, des fois, réfléchis sans dire. Et j'ai pas été déçue, hein, évidemment. Et le deuxième truc, c'est tout bête, et je sais pas, les gens trouvent ça bête quand je dis ça, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que j'arrive dans un endroit où je ne suis plus une minorité. Mm-hmm. Je sors de l'aéroport, je vois des riches, je vois des pauvres. Je vois des gens en voiture, je vois des gens en vélo, je vois une femme de ménage, je vois un homme d'affaires, ils sont tous noirs. Et en fait, ça me fait un choc. Parce que moi, les seuls endroits où il y a des noirs normaux, ils ont tous un rôle, où ils ont tous, ils sont juste des êtres humains, ils sont pas des noirs, c'est en Guadeloupe. Quand je vais en vacances en Guadeloupe, il y a des noirs partout, c'est normal, c'est de là d'où viennent mes parents, etc. mais ça n'existe pas ailleurs. Ou alors ce que je vois à la télé, les États-Unis et tout, mais tu vois, ça n'existe pas ailleurs pour moi. Et quand j'arrive là, quand j'arrive au Ghana, je me dis, ah ouais, en fait, il y a un monde où genre, je peux juste être Sandy.
Ouais.
Il y a un monde où je suis pas genre, tu vois, par exemple, même quand j'étais à l'école, j'étais la première de la classe, blablabla, j'étais la première de la classe noire. Quand je suis au violon et que je réussis le truc au conservatoire, je suis la petite noire qui a réussi.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit dans le négatif ou dans le positif, t'as ton étiquette de noire, tu vois, et en fait, tu l'intègres. Pour moi, en fait, tu l'intègres. Tu grandis comme ça, tu dis, de toute façon, c'est comme ça, et t'avances. Et quand t'arrives dans un lieu où tout ça n'existe pas, mais en fait, t'es libéré d'un truc, tu savais même pas que t'avais le poids. Et moi, quand je suis arrivée au Ghana, j'ai été libérée d'un truc dont je ne savais même pas que j'avais le poids.
Ouais.
J'étais juste Sandy, en fait. J'étais pas...
Indépendamment de ta couleur de peau.
Oui, j'étais juste Sandy. Et ça, j'ai kiffé. Et depuis, tu vois, hein, j'ai continué à être juste Sandy dans beaucoup d'autres pays du continent.
Super, génial. Et du coup, est-ce que tu t'imaginais déjà à l'époque que des années plus tard, tu te lancerais un challenge aussi fou, à savoir parcourir 10 pays en 10 mois?
Non. Je pense pas. Parce que, en fait, quand j'étais au Ghana, c'était entre ma première année et ma deuxième année de prépa. Donc, quand je vais au Ghana, je suis encore très, dans ma tête, je sais très exactement ce que je veux faire de ma vie.
Ok.
Je suis en train de faire des études d'excellence, comme ils aiment bien appeler ça en France. Donc, je sais que je vais faire mes deux années de prépa. Je sais que je vais aller en école de commerce. Je vais être employée
dans une grande boîte. Ouais.
Que après, je vais monter, que je vais être manager. Après, je vais
le parcours classique, quoi, ouais. Finalement.
Je me vois en tailleur dans les trucs, dans les tours de la défense, ouais. Muter à New York, à dire à des gens de faire ceci, faire cela. Enfin, je vois exactement ce que je vais faire. Je vais toujours faire mes petits voyages en Afrique, mais je me dis pas du tout que je vais vraiment embrasser ça, tu vois. Et ouais, bon, bah, ça a changé après. Mais à ce moment-là, non. À ce moment-là, je sais juste que, bah, en fait, à chaque fois que j'ai des plans de vacances, que je me dis, ah, il faudrait que je tente le Vietnam, il faudrait que je tente Miami, gnang. Là, je me dirais, bah, en fait, il n'y a pas que ces pays-là dans le monde. Il faut aussi que je pense au continent. Et du coup, après, ça a bombardé. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé en Afrique et dans l'Afro-World en général.
Oui. C'est ça, parce que du coup, effectivement, ça se limite pas seulement au continent africain, ça va jusqu'à la Caraïbe et l'Amérique également, donc c'est important de le préciser aussi. Ok, Sandy, dis-moi, tu as un rythme assez effréné, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout depuis que tu t'es lancé ce challenge-là.
Ouais.
Je sais pas si tu prévois d'avoir des enfants, mais si un jour c'est le cas, comment tu jonglerais en fait la maternité avec tous ces voyages-là? Est-ce que tu y as déjà pensé?
Ah, mais bien sûr, mais moi en fait, tout est très clair dans ma tête. Là, je fais mon voyage 10 mois, 10 pays. Un jour, ce voyage, il va prendre fin. Hein. Je vais me poser quelque part et puis j'aurai ma petite vie normale comme tout être humain normal. Après, effectivement, là, beaucoup de personnes aujourd'hui ont connu Abnafrica avec ce voyage 10 mois, 10 pays. Mais Abnafrica existait avant.
Et bien avant Instagram même, parce que tu voyageais avant Instagram.
Déjà
aussi.
Bien avant Instagram et ensuite, avant que je fasse ce voyage, Abnafrica avait déjà 3 ou 4 ans, même pas 4 ans, ouais.
Ok.
Et j'avais mon travail, donc je travaillais à la Défense. Et à côté, tous les 2-3 mois, plutôt tous les 3-4 mois, je voyageais en Afrique. Bah, c'est pareil, en fait. Demain, je vais me poser dans un pays sur le continent africain. J'ai pas encore acté officiellement lequel.
Mais tu commences à avoir une idée, hein. J'ai vu là récemment.
Je commence à avoir une très très bonne idée de là où j'ai envie d'aller. Mais comme c'est en novembre, j'ai pas trop envie de parler. Et après, je change d'avis. Et après, il faut que j'explique pourquoi je change d'avis. C'est ça aussi la vie des réseaux. Franchement, c'est le seul truc, je crois, de toute Abnafrica, c'est le seul truc qui me saoule un peu. Voilà, je préfère, je sais très exactement le pays où je veux aller pour l'instant, mais je vais laisser ça.
Tu vas laisser mûrir ça dans ton esprit quand même.
Merci, voilà, c'est ça, merci d'avoir donné les mots. De laisser mûrir ça dans mon esprit et pour aussi moi me faire ma propre idée, pour pas être influencée. Et voilà, une fois que je me pose dans ce pays, bah, je continue à travailler à distance, c'est la vie que je me suis créée. Et tous les 3 mois, je vais voyager. Un jour, j'aurai des enfants. Je pense que quand ils seront trop petits, on voyagera un peu moins ou un peu moins loin. Mais dès qu'ils ont un an, c'est possible, on recommence à voyager. Je pense qu'il y a beaucoup de barrières que certaines personnes se mettent parce qu'ils, par mimétisme de leurs amis, etc. Mais moi, je suis une famille sur Instagram, qui s'appelle Banafrica. Ils ont 2 enfants, la maman vient d'accoucher d'un enfant qui a même pas 2 mois. 2-3 mois, ils viennent juste de partir. Là, ils viennent d'arriver à Dubaï. Et avant, ils étaient en Tanzanie. Enfin, je pense que oui, ce sera possible. Après, il y a aussi ça. Une des raisons aussi, quand on est sur le continent africain, il y a aussi plein de choses dans le rythme de vie, dans le style de vie qu'on a, qui est différent de quand on est quand on vit en Europe. Moi, je sais que dans ma maternité, je sais que dans ma future maternité, je vais pas le vivre de la même manière si j'élève mes enfants en Europe que si je les élève en Afrique. Dans le fait que, en Afrique, quand on dit que c'est tout un village qui élève un enfant, c'est vrai, en fait.
Totalement.
Genre, t'as vraiment tellement de gens autour d'un enfant en Afrique. C'est incroyable.
Totalement.
Et en tant que femme, en tant que nouvelle maman et tout, tu te sens super entourée à plein de niveaux. Quelqu'un qui a un salaire moyen à Paris, ben, des fois, dès qu'il veut sortir, il faut trouver une nounou, il faut trouver quelqu'un. Moi, mes amis ici qui gagnent pas, ils sont pas richissimes, mais ils ont des salaires très juste corrects, mais ils ont la nounou qui est là, ils ont la dame qui fait la cuisine, etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont super, c'est un luxe pour moi et c'est des choses qui vont me permettre, moi, de me concentrer sur mon business ou de me concentrer. Je vais pouvoir plus jouer avec mes enfants ou faire plus de trucs avec mes enfants, faire plus de trucs avec mon futur mari. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs qui font que ça posera pas de problème pour moi.
Ok, bah top, ça a l'air d'être très clair dans ta tête dès maintenant, donc super. Et en parlant de ça aussi, est-ce que tu penses que tu pourrais te poser avec un homme qui n'a pas la même curiosité que toi ou en tout cas qui n'a pas ce même goût de découvrir l'Afro World?
Ah, tu m'as dit que tu avais posé des questions, ouais. Effectivement, cette question, on ne me l'a jamais posée. Alors, comment répondre à cette question? Je pense que ce sera compliqué parce que quand on se met avec une personne, on dirait les opposés s'attirent, un truc comme ça. Mais je pense que toi, dans tes discussions, quand tu rentres de voyage ou je rentre d'une conférence que j'ai donnée ou une conférence à laquelle j'ai assisté, enfin, j'ai envie de discuter de certains trucs. Si ton mari s'en fout, c'est pas intéressant.
C'est sûr.
Et vice versa, tu vois. Donc, j'ai vraiment pas envie de finir avec quelqu'un qui est sur les réseaux ou Instagrammeur ou qui a de la visibilité, ouais. Et tout. Je veux pas.
Ça t'intéresse pas?
Non, parce que je me rends compte que c'est un monde qui est très très bizarre et très très
superficiel.
Alors je pourrais pas dire superficiel parce que moi-même je suis dedans et je suis vraiment pas superficielle et je connais plein de gens qui sont dedans et qui sont pas superficiels. Par contre, il y a des choses qui peuvent te monter à la tête très rapidement à partir du moment où t'as de la visibilité. C'est un peu des fois, tu sais, on dit quand les gens ils gagnent au loto, ils changent, ils deviennent. Mm-hmm. Et ben le fait d'avoir de la visibilité, le fait qu'on te reconnaisse dans la rue, le fait qu'on parle de toi comme un modèle, le fait de récemment là, tu vois, le fait d'être dans un livre pour enfants,
oui,
ça monte très vite à la tête de plein de gens. Et après il faut savoir gérer ça. Et même tu vois. Moi franchement à la base quand j'ai créé Abnafrica, c'est parce que je t'ai raconté. Enfin c'est vraiment. J'estimais qu'on respectait pas assez l'Afrique dans nos plans de voyage. J'estimais qu'on n'avait pas assez d'informations sur notre histoire, sur à quel point on est grand, à quel point on peut être fier de qui on est, à quel point franchement, enfin, pour moi c'est tellement un privilège aujourd'hui d'être une femme noire, c'est incroyable, tu vois. Et moi j'ai vraiment créé le podcast pour ça, J'ai vraiment créé Abnafrica, tu vois. J'ai vraiment créé Abnafrica pour ça. Et après le fait d'être visible sur les réseaux, c'est pas un dommage collatéral, mais c'est une continuité, voilà.
Tu vois.
Mais à la base c'était pas pour ça. Et du coup. Maintenant, t'es obligé de faire attention. Est-ce que les gens s'approchent de toi pour toi ou par intérêt ou parce qu'ils veulent des... Et donc, il y a tous ces trucs-là qui viennent quand tu es en train de penser à la personne avec qui tu vas partager ta vie, ouais. Ou pas. Et donc, j'aimerais vraiment pas qu'il soit sur les réseaux. Ce serait super cool. Mais s'il est sur les réseaux, tant pis, on verra bien. Donc, ouais, j'aimerais... J'ai pas envie d'avoir un clone de moi, mais je vois pas comment ce serait différent, mais il faudrait que ce soit quelqu'un qui est... une vision un peu similaire à la mienne.
Un minimum, quoi.
Sur la communauté noire, sur ouais. Là où on peut aller, etc., tu vois. Et donc, en fait, c'est vraiment... Il suffit pas juste que le gars soit noir, parce que je connais plein de personnes noires qui n'ont pas du tout cette vision-là, parfois même au contraire. Donc, ouais.
OK. Quand on te voit évoluer, on ressent vraiment... En tout cas, c'est mon cas, moi, personnellement. On ressent vraiment la plénitude, la fierté et la gratitude que tu ressens à relever ce défi ou en tout cas à faire découvrir l'Afrique ou redécouvrir l'Afrique autrement. On a vraiment l'impression que ça te nourrit de l'intérieur, ouais. Ça te galvanise, tout ce qu'on veut. Mm. Finalement, j'aimerais vraiment connaître quelle est ta perception du bonheur.
Ah, ma perception du bonheur, elle est très simple. Mais c'est une très belle question parce que depuis que je suis petite, je suis obsédée par le bonheur. C'est une très belle question parce que depuis que je suis petite, je suis vraiment obsédée par comment faire pour... En gros, je me dis que le but de chaque être humain sur Terre, c'est d'être heureux. Et en gros, c'est comment est-ce qu'on fait pour être heureux. Et donc moi, quand j'étais petite, c'était de me dire qu'en gros, dès que je voyais un truc qui me faisait plaisir... Je le notais et après je le refaisais. Et même quand c'est chiant, par exemple, je voyais que j'étais contente quand je trouvais que j'avais un beau corps.
Ouais.
J'ai un beau corps parce que je fais de l'athlétisme. Donc, du coup, il faut que je continue le sport. Tu vois, c'est des trucs
comme
ça.
Ouais, ouais, ouais. Okay.
Et en grandissant, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas le bonheur que je cherche. C'est pas le fait d'être heureuse. Pour moi, le fait d'être heureuse, c'est une succession de joie ou de moments, etc. Je pense que vraiment ce vers quoi je suis à la recherche aujourd'hui, c'est vraiment la paix.
La paix intérieure.
Ouais, la paix. Intérieur et
extérieur,
tout.
Partout.
Tout. Okay. La paix et la liberté juste après, mais vraiment la paix. Et pour moi, c'est ça le bonheur. Le fait, parce qu'en fait, quand on parle de bonheur, c'est être bien. Et en fait, moi, je suis bien quand je suis en paix. Je suis bien quand je suis en paix par rapport à l'environnement qui m'entoure. Je suis bien quand je suis en paix par rapport aux personnes qui me fréquentent et aux gens que moi, je fréquente. Je suis bien quand je suis en paix par rapport au travail que je fais. Est-ce que je suis alignée avec ce que je partage? Est-ce que mm-hmm. je me sens forcée dans certains contenus? Est-ce que je me sens forcée dans certains propos? Je suis en paix quand je suis bien financièrement. Il faut qu'on en parle aussi dans la communauté noire. C'est un truc qui est très tabou, le fait de vouloir avoir beaucoup d'argent, le fait de vouloir être riche, etc. C'est quelque chose qui est très tabou. Dès qu'on commence à gagner un petit peu d'argent, le capitaliste, non. La raison pour laquelle je fais mon 10 mois 10 pieds aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu mettre de côté énormément d'argent. Et à un moment donné, je me suis levée et je fais ça. Ok, bon, maintenant, mon livret est en PLS. Ok, mais sans argent, j'aurais jamais pu faire ça. Donc, il faut arrêter aussi ce truc de... Je suis en paix quand Mes comptes sont pleins, je suis en paix quand je sais que je galère pas à la fin du mois, ouais. Je suis en paix quand je sais que, ça je sais pas quand le podcast va sortir, mais tu vois, c'est paradoxal, mais il y a 2-3 semaines, j'ai regardé mes comptes et je me suis dit, ah ouais, là c'est compliqué, pour te dire, pour être honnête avec toi, je sais même pas comment je vais financer les 2 derniers pays, et pourtant, c'est à ce moment-là que j'ai appelé mon boss, parce qu'en fait, je suis en congé sabbatique. Beaucoup de gens pensent que j'ai quitté mon travail. En fait, je suis en congé sabbatique.
Ouais.
Et pourtant, c'est à ce moment-là que j'ai appelé mon boss et que je lui ai dit, écoute, je reviendrai pas. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mon boss et je lui ai dit, écoute, je démissionne.
Waouh, ok.
Et ça, c'est la paix dans le sens où je me suis dit, ok, tu n'as pas encore l'argent, mais tout ce que tu as fait depuis ces 12 mois, toutes les épreuves que tu as traversées depuis ces 12 mois, toi-même, tu sais que tu vas trouver un moyen de continuer ton truc.
C'est pas possible autrement.
C'est pas possible autrement. Et le déclic que j'ai eu, c'était quand j'étais au Cameroun, j'ai rencontré un artiste, Alexis, qui est un très grand artiste, super intéressant, Alexis Peskin. Et à un moment, je lui disais, mais c'est fou, toi, en fait, t'as jamais travaillé comme les gens. Tout de suite après l'école, t'as été prendre un job normal, t'as tout de suite été artiste. Mais comment t'as pas eu des moments de galère, des moments où t'étais vraiment financièrement, c'était chaud. Il me dit oui. Et après, tout de suite, il me dit, en fait, non, non. Et après, il me dit, tu sais, en réalité, moi, j'estime que j'ai de l'or entre les mains. Donc même dans mes moments de galère, dans ma tête, j'étais pas en galère parce que je sais que le don qu'on m'a donné fait que je trouverai toujours un moyen de... Là, je suis dans la période creuse, mais je trouverai un moyen de remonter. Et je pense que ça, c'est un truc qui est resté dans mon cerveau. Et quand j'ai regardé mes comptes, je me suis dit, ah là, je suis dans la période creuse. Mais comme j'ai dit, comme Alexis Peskin, mes mains sont de l'or. Mon cerveau est de l'or, mon cœur, c'est de l'or.
Ta créativité est de l'or.
Voilà,
aussi.
Ma créativité, c'est de l'or. Et donc du coup, je me suis dit, bah allez, hop. On y va ou pas. Et donc, je me rappelle même plus de la question que tu m'as posée. Ah oui, c'est, on était sur la paix.
Ta conception du bonheur, on parlait
oui,
de
oui. Donc voilà, moi, je pars dans tous les sens. Donc oui, ma conception du bonheur, c'est de la paix à tous les niveaux. Et bien évidemment, la paix, géographiquement parlant, dans le sens où aujourd'hui, le fait de dire que je vais m'installer en Afrique, j'allais dire le pays, le fait de dire que je vais m'installer en Afrique, c'est une telle liberté. Parce qu'en réalité, t'as plein de gens aujourd'hui qui veulent aller en Afrique, mais qui, par professionnellement parlant, ils peuvent pas, ou familialement parlant, et le fait de dire que je vais en Afrique, et le fait de me dire que si j'aime pas ce pays-là, c'est pas grave. 2-3 mois après, je peux aller autre part pour tester, je peux aller en Guadeloupe si normalement c'est plus l'Afrique.
Enfin, c'est clair.
Vraiment la paix à tous les niveaux. Okay. C'est ça pour moi le bonheur.
Bah du coup, tu nous as déjà donné un indice dans ton développement là tout à l'heure. J'allais te demander si tu comptais du coup retourner à ton ancienne vie dans les achats mm-hmm. ou bien si tu comptais te reconvertir, mais mm. déjà je sais que tu as démissionné. Donc comment envisages-tu ton avenir professionnel? Mm.
Le plan de base, c'était je prends un congé sabbatique d'un an, je fais mon voyage hein. Et je m'étais, en fait, et c'est pour ça que c'est important de jamais se donner de plan B. Et je me suis dit, au cas où ça marche pas à Benafrica, je reviens à Paris, je reprends ma vie d'avant mm-hmm. pendant 6 mois. Et après, au bout de 6 mois, je pars vraiment. Et puis aussi, ça peut être bien de recommencer à avoir un salaire tous les mois. Financièrement, ça peut être intéressant. Donc, c'est ce qu'il y avait dans ma tête, tu vois. Et quand j'arrive au Ghana, je rencontre un autre mec qui est lui aussi digital nomade, à peu près le même âge que moi, etc. Et quand je lui dis que ouais, peut-être que je vais rentrer à Paris, il me suit sur Instagram. Okay. C'est-à-dire qu'il sait ce que je fais. Et il me dit, mais à quelle heure toi tu vas rentrer? Et lui, pour lui, c'était tellement évident que c'était impossible que je reprenne mon travail que ça m'a fait réfléchir. Et je suis restée très longtemps avec cette personne-là, en voyageant, etc. Et donc, du coup, sur le mindset aussi, du coup, ça m'a vraiment fait réfléchir. Mais pour répondre à ta question, initialement, je pense que je comptais rentrer début juillet, bosser 6 mois et après vraiment parce que je pense que dans ma tête je me suis dit bah voilà, si Abn Africa fonctionne pas ça. Et en fait, comme je t'ai dit, à un moment je me rends compte que mes finances sont dans le rouge.
Ouais.
Je me rends compte également que pour l'instant j'ai pas de business model. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens pensent que j'ai déjà beaucoup d'argent, je sais pas, mais c'est pas du tout le cas. Et en plus j'ai une cagnotte mais j'en parle jamais, donc je reçois pas tant d'argent que ça. Et en fait je me suis rappelé d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et dans un des principes qu'il donne pour avoir le mindset pour devenir riche, il dit, on aime trop mettre plan A, B, C, D. Si le plan A, il échoue, on prend B. Si le B, il échoue. Mais en fait, le fait d'avoir des backups, ça fait que on va pas tout donner pour que le plan A réussisse.
Fonctionne, ouais.
Voilà.
C'est drôle parce que c'est un livre que j'ai commencé en janvier. Et moi, je suis pas très livre éducation financière ou développement personnel. C'est pas mon dada. J'adore lire. Mais ça, pour le coup, je suis pas cliente. Et ça m'a captivé au début et j'ai coupé. Mais du coup, je vais reprendre.
D'accord. Bah, franchement, de tous les livres de dev perso, parce que pour moi, ça, c'est mi-dev perso, mi-développement personnel, mi-éducation financière. Ouais. C'est pas celui que j'ai préféré. Mais comme je l'ai lu, et comme c'est tellement genre l'incontournable, ouais, et ouais, des ouais, blocs c'est de ça. Trucs, si t'as pas lu, si t'es comme Père Riche, Père Pauvre, si
exact.
T'as pas lu, ça, c'est ouf. Donc du coup, je l'ai lu, moi, jusqu'au bout. Et voilà, à un moment, il dit ça. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est ça, tu vas enlever le plan B. Parce que ton plan B, en vrai, c'est que tu sais qu'à tout moment, tu peux retourner ouais. travailler en entreprise.
C'était retourner dans ta zone de confort, finalement.
Voilà, à tout moment, tu peux retourner dans ta zone de confort. Donc, tu vas juste l'enlever. Tu vas vraiment regarder l'or entre les mains et tu vas avancer. Donc, pour répondre à ta question, moi, je comptais revenir. Là, c'est mort, je reviens pas. Et l'idée, c'est de voir comment faire pour développer ce que j'ai déjà commencé à créer. En termes de contenu, de positionnement, de marque, de tout ça, c'est déjà en place. C'est-à-dire que les gens connaissent Abn Africa. On connaît la vision, on sait pourquoi je le fais, on me connaît moi, donc tout ça est mis en place. Maintenant, le projet, c'est de voir comment est-ce qu'on monétise tout ça, comment est-ce qu'on fait, comme les gens aiment bien dire, comment est-ce qu'on fait pour vivre de sa passion. Voilà.
Ouais, finalement, c'est ça ton nouveau goal, quoi.
C'est ça mon nouveau goal. Exactement. Très
bien. Mais j'allais te demander, parce que oui, tu l'évoquais là tout à l'heure, tes comptes sont dans le rouge, etc. Mais comment tu fais finalement pour vivre, pour subvenir à tes besoins? Est-ce que tu as d'autres sources de revenus? Ouais. Tu parlais de ta cagnotte, mais dont tu ne fais pas vraiment ouais. beaucoup référence. Mmh. Est-ce que tu as d'autres sources de revenus, ouais. mis à part tes économies qui commencent sérieusement à s'épuiser?
Ouais. Alors, comment ça s'est fait le truc? Ça s'est fait que donc on était dans le confinement. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés personnellement pendant le confinement. Donc, je décide de m'arrêter. J'appelle mon boss et je lui dis, écoute, Jérôme, pendant un an, je vais partir. Je reviendrai après. Quand je prends cette décision, je sais que j'ai les finances. Pourquoi? Parce que de base, et je pense que ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient encore des messages pour me demander comment tu fais pour financer ton voyage et tout. Le truc central de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de parler avec toi au Bénin, alors que ça fait plus d'un an que j'ai pas mis les pieds au travail,
ouais.
C'est parce que de base, je suis pas quelqu'un de dépensier.
Okay.
De base, j'ai été élevée par des parents qui n'ont jamais gagné énormément d'argent, mais j'ai toujours eu l'impression que j'avais plus de moyens que certains de mes cousins, que certains de mes amis, parce que mes parents savent gérer leur argent. Ouais. C'est-à-dire que si tu gagnes que 1500 euros, tu sais que tu vas pas les mettre dans un sac quartier,
c'est
ou
sûr.
En allant manger tous les jours au McDo, ou en allant acheter des trucs, des chaussures Puma, 110 euros à tes enfants, etc. Donc, du coup, j'ai été élevée dans ce mindset mm-hmm. financier-là. Une fois que mon tout premier stage, j'avais, je sais pas, 20 ans, j'en sais rien, mon tout premier stage d'école de commerce, je travaillais pour Ericsson et je gagne 900 euros par mois, je mets 90% de mon salaire de côté.
Okay. Wow.
90%. Je vivais encore chez mes parents. Donc, ça veut dire que les 10%, c'était quand j'avais un cadeau à acheter à une copine ou à ma famille, etc. Et de ce premier stage, qui était donc en 2013, je crois, hein, de ce premier, ouais, 2012, je sais plus, dans ces eaux-là, de 2013 jusqu'à 2021, où j'ai fait du coup stage, alternance, CDD, CDI, il n'y a pas un mois où je n'ai pas mis d'argent de côté.
Ouais.
Tout simplement parce que, un, je ne suis pas dépensière, et parce que, deux, j'ai été élevée comme ça. Quand tu gagnes de l'argent, le secret, c'est pas, oui, c'est quand même bien quand on gagne beaucoup d'argent, mais le secret, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est comment est-ce qu'on fait pour retenir le maximum d'argent une fois que ça arrive chez toi.
C'est ça.
Quand tu reçois l'argent, moi, j'ai un virement automatique. Je recevais mon salaire le 28. Le 29, il y avait déjà un virement automatique qui allait dans mon livret A. Quand mon livret A était plein, ça allait dans mon LDD. Dès le début, je mettais de côté sans avoir de but particulier. Mm-hmm. J'avais même des amis qui se moquaient de moi en disant, ah, vous, les gens qui économisaient, demain, vous allez mourir avec votre argent. Mais de toute façon, je suis quand même heureuse en utilisant l'argent, tu vois. T'as pas besoin, quand t'as 20 ans, tu gagnes 2500, 3000, 3500 euros par mois. T'as pas besoin, et tu vis dans un appartement à 500 euros le loyer. T'as pas besoin de dépenser tout ton
Bien
argent,
sûr.
En fait. Donc, moi, je dépense mon argent dans trois choses. Les voyages, la nourriture et les formations. C'est
okay.
tout. Après, le reste, t'as pas le choix, loyer, électricité.
Oui, bien
okay.
sûr, les charges mais, fixes comme ça, mais sinon.
Ouais, j'ai dépensé beaucoup. Les gens, quand les gens regardent Instagram et tout, ah, mais t'es graphiste, ah, mais t'es vidéaste, ah, mais.
Non. Tu t'es auto-formé, hein, faut le rappeler.
De malade mental. J'ai dépensé ouais. de l'argent dans des formations, comment gérer son compte Instagram. J'ai dépensé de l'argent sur des formations, comment faire son site internet, comment avoir un bon SEO. J'ai dépensé mon argent sur comment monter des bonnes vidéos. C'est ça aussi. Moi, c'est
bien
normal.
Sûr.
J'investis sur moi, en fait. Et donc, du coup, quand j'ai décidé de partir, je me suis même pas posé la question financièrement, je savais que c'était là. J'ai pas économisé pour ce projet-là, mais une fois que j'ai voulu le faire, j'ai été libre, et c'est comme ça quand je te parle de paix, de liberté et tout, j'ai été libre de dire, bah, ok, je le fais. Après, à un moment donné, effectivement, l'argent n'est plus là. Parce que ça coûte cher. Parce qu'en fait, bon. Ça, on peut vraiment voyager en Afrique sans dépenser beaucoup d'argent, mais moi, le fait de travailler en même temps, c'est-à-dire le fait de devoir créer du contenu régulièrement, répondre à mes mails, etc., ça fait que j'avais besoin d'un minimum de confort.
Bien sûr.
Et en Afrique, avoir un minimum de confort, c'est avoir un hôtel avec un bureau et la wifi qui fonctionne. Mm-hmm. Enfin bref. Et donc du coup, je pouvais pas, comme une amie que j'ai rencontrée quand j'étais en Éthiopie, je pouvais pas faire trop de couchsurfing où j'allais dormir gratuitement chez les
ouais.
gens, où j'allais, tu vois, j'avais besoin de. C'est déjà tellement compliqué de garder une discipline de travail quand tu changes d'endroit tous les jours que si t'as pas moi ton bureau, ta bonne lumière, parce qu'on parle de juste le bureau et d'internet, mais même le fait d'avoir une bonne luminosité,
une lumière
qui t'éclaire for real, et pas qui te dit il est 22h, va dormir. Franchement, c'est quelque chose. Donc du coup, au bout d'un moment, je vois que c'est en train de fondre, je vois que mon LDD n'existe plus, mon livret est en train de partir en courant, et indépendamment de ma situation financière, dans tous les cas, j'ai toujours été en mode il faut que je monétise Amn Africa, mais je passais pas à l'action. Et je pense, tu vois, c'est encore cette fameuse histoire de plan B. Je savais que derrière j'avais un plan
B.
C'est ça. Je savais que dans tous les cas, je peux revenir au travail et retoucher mes tu vois mon argent à la fin du mois. Et donc du coup, je parle à des gens autour de moi, je parle beaucoup de mes rencontres, les rencontres que vous voyez dans mes stories, mais j'ai rencontré tellement de personnes virtuellement qui m'ont aidé. Gaëlle Prudenceau, que j'ai jamais vu de ma vie, pour moi, elle fait partie de mon voyage parce qu'elle m'a coaché, aidé, soutenu, chirrupé sur tellement de points. Livia qui est repareil, ma vie boîte, j'en parle même pas. Enfin, tu vois, c'est des gens, et bref. À un moment donné, je me suis dit, Sandy, bon, il faut que tu commences à faire quand même un petit truc. Donc, je parle de guide, mais le guide, il faut avoir le temps de les construire, etc. Et du coup, tu sais que ça va pas te financer tout de suite. Il y a d'autres choses que j'ai en tête. Je parle pas trop sur Instagram dessus parce que je préfère en parler quand ça sort. Mm-hmm. Et donc, du coup, je commence à donner des masterclass. Pas uniquement pour financer, parce qu'au moment où je sors les masterclass, je suis encore très bien au niveau
financièrement parlant.
Plus dans le sens où je reçois un milliard de DM sur Instagram, je peux répondre quand je peux répondre. Enfin, et je sais que je réponds pas à tout le monde. Et du coup, je fais une première masterclass, je kiffe de ouf. Parce qu'en fait, je kiffe le fait que, tu vois, t'es un peu proche des gens sur Instagram, mais là, t'as les gens en face de toi, virtuellement. Ouais. Mais tu vois leur tête, tu écoutes leur projet de voyage.
T'interagis
vraiment avec eux. Tu comprends le pourquoi de chacun. Pourquoi est-ce que toi, t'as envie d'aller en Afrique? Pourquoi est-ce que toi, t'as envie... Et tu vois, si tu vois que c'est pas les mêmes raisons pour tout le monde. Du coup, je kiffe et je continue. Donc ça me rapporte un petit peu d'argent. Pour être honnête, en fait, si je faisais les masterclass en ayant ma vie d'avant, je pense que ça aurait été correct. Mais comme j'ai mes masterclass en voyageant et que voyager me coûte beaucoup plus cher que de vivre à Paris, on va dire que ça me... En fait, j'aime pas trop ce mot-là, mais en fait, c'est un peu en mode survie. C'est-à-dire que ça me rapporte de l'argent, mais c'est de l'argent qui ne reste pas. Et moi, la grande femme qui épargne tout le temps que je suis, ça me...
J'imagine, ça a dû te faire tout drôle.
Ça part comme ça si vite. Parce que ça part très vite. Un billet d'avion, c'est 500, 600, 800 euros. Tu vas faire des tests Covid à... tous les mois, tu fais des tests Covid pour sortir, des tests Covid pour rentrer. Sans tomber, les tests Covid, c'est 110 euros. En Tanzanie, c'était 200 dollars, mais finalement, j'ai trouvé des trucs à 50 dollars. Enfin, tu dépenses de l'argent tous les jours pour dormir. Tu vois, c'est tout bête, mais.
Ouais, bien sûr.
Et ça coûte plus cher que ton loyer à Paris, parce que voilà. Bref. Donc, j'avais mon épargne. Donc, il y a les masterclass aussi. Et après, il y a les cagnottes, mais honnêtement, alors, franchement, tous les gens qui m'ont envoyé de l'argent pour les cagnottes, je les remercie, j'en profite d'être à ton micro. Pour les remercier, parce que vraiment, je pense que j'aurais été dans le rouge peut-être plus tôt si j'avais pas eu ça. Après, effectivement, comme je t'ai dit, j'en parle très peu. Il y a même plein de gens qui m'envoient encore des DM, mais il faut ouvrir une cagnotte et tout. Mais en fait, j'en ai une, c'est juste que j'en parle peu. Et tu vois, par exemple, je me souviens, c'était quand j'étais au Bénin, j'avais expliqué que j'avais un problème de disque dur, que mes données étaient bloquées, je sais pas quoi, et qu'il me fallait un nouveau disque dur. Et genre, j'avais mis le screenshot de ce que j'allais acheter. 10 minutes après, je reçois un PayPal d'une meuf qui m'envoie exactement le montant.
Du disque dur.
Et c'était genre 230 euros, un truc comme ça. Et je me dis, comment une meuf un matin se réveille et se dit, je vais envoyer un PayPal de 200 balles à une meuf qu'elle a jamais rencontrée. Et tu vois, ça c'est des trucs où tu te dis, mais en fait tu peux pas genre dire, vas-y, j'ai fait lui payer, mais je suis fatiguée.
Ouais. Non mais bien.
Tu vois, donc pour l'instant c'est vraiment ça, c'est vraiment je suis encore sur mon épargne. J'ai les masterclass, les prochains pays, je sais pas comment je vais financer, mais je vais trouver un moyen. S'il faut que je sois un prêt à des gens, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et en parallèle, je commence à travailler très sérieusement sur comment...
sur la suite, quoi.
Ouais, sur la monétisation de
l'Amn Africa.
Yes.
OK. Alors moi, Sandy, j'ai une question existentielle à ton sujet. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me dire s'il y a quelque chose, s'il existe quelque chose que tu aimes plus que la loco?
Je me suis jamais posé la question parce que c'est évident que ma famille, j'aime bien mes parents.
Non mais j'imagine, parce que ton amour pour la loco, c'est quand même quelque chose.
Mais par contre, tu sais que moi, mon amour pour la loco, enfin, pour moi, c'est j'aime tellement ça que je savais même pas que c'est possible qu'il y ait des gens qui n'aiment pas. Tu sais, j'ai rencontré une fille là, moi j'aime pas le plantain, mais qui n'aime pas le plantain? Et carrément, une fois, j'ai vu une personne sur Instagram, Maison d'Assam, Wendy de Maison d'Assam, qui a fait un sondage et qui disait team Alogo, team Mango, et la mangue a gagné.
Et mais ça t'a étonné?
Mais comment la manque peut gagner? Tu vois? Donc, je sais pas. Moi, je.
Non, pour moi, il y a match. Moi, j'aime les deux. J'adore les deux, mais il y a match.
Mais moi, je savais même pas que c'était possible, en fait, tu vois. Et tu sais quoi? J'aime pas la mangue. C'est
ah
pas
bon?
Mais c'est pas parce que tout le monde l'a mis en face de la loco. Mais je pense que c'est l'univers indirectement qui a fait que je n'aime pas la mangue, que je puisse consacrer toute mon énergie à la loco. Je n'en sais rien. Mais je pense que c'est parce que tout le monde aime la mangue. Donc, c'est bizarre que moi, j'aime pas la mangue. Mais non, est-ce que j'aime quelque chose de plus que la loco? Bah non, comment ça peut être possible?
Ça j'aime la loco, voit,
non, sur toutes ses formes.
Ok.
Frit, à la vapeur, bouillie,
braisé, tout.
Ah, ouais, ouais.
Ok. Merci pour cette réponse, que franchement... Et pour finir, Sandy, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote liée à tes voyages dont tu n'as encore jamais fait référence sur les réseaux sociaux?
Une anecdote de voyage, j'en ai jamais parlé sur les réseaux. Je raconte tellement de trucs, c'est rare hein, que je vous raconte pas des choses. Hein. Dès qu'il m'arrive quelque chose, en plus je suis solo traveleuse, donc si je raconte pas ça, vous, que je raconte. Non, je raconte à ma famille beaucoup. Écoute, je vous ai tout raconté, je vous ai raconté quand j'ai failli me faire bouffer par des crocodiles et des hippopotames au Botswana. Je vous ai raconté quand j'ai été à l'investiture du président en Zambie. Je crois que je vous ai tout dit, hein.
Finalement.
Ouais.
Il y a rien qu'on sait pas.
Ah, je sais pas.
Comme mais... anecdote drôle ou bien décalée ou bien.
Non, franchement, j'ai rien en tête. Attends, je réfléchis. Ah, oh, je sais pas. J'ai jamais eu idée d'anecdote.
Non, mais c'est pas grave. Mais après, faut dire, comme je disais au début de notre échange, c'est vrai que tu partages énormément sur tes réseaux, donc. Ok. Bon. Pas de souci, alors. Je vais me contenter de ça, de ce que je sais déjà.
Sorry.
Pas de souci. Mais je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi, Sandy, que cette fois-ci, on ait pu vraiment prendre le temps de discuter. Ça m'a fait plaisir. Comme je disais tout à l'heure, t'es vraiment très transparente. Enfin, tu essayes au maximum, en tout cas, d'être transparente sur tes réseaux.
Ouais.
Donc, je suis ravie de cet échange. J'espère que tu apprécieras le reste de ton séjour au Bénin, parce que je sais que c'est ton deuxième passage ici.
Oui, vous avez vu comment j'aime votre pays.
Ouais, bah oui, j'ai vu. Et j'espère que cette fois, du coup, tu perdras pas tes données.
Mais grave, tu sais quoi, je suis en train de faire mes trucs et je me dis, mais imagine, ça saute encore une fois.
Non.
Ah.
Une fois, mais pas deux. En tout cas, encore une fois, merci Sandy.
Avec plaisir.
Ça m'a fait plaisir. Et quant à vous qui m'écoutez, je vous dis rendez-vous au prochain épisode avec un prochain invité. Bye bye.
Salut.